Radio Kapi. Oh, Kapi. Journal présenté par Grace Amzati.
Au sommaire de ce journal, désormais, les femmes enceintes et les nouveau-nés recevront les soins de qualité gratuitement d'abord à Kinshasa, ensuite dans l'ensemble du pays. Déclaration du président de la République, Félix Tshisekedi, lors du lancement hier à Kinshasa de la gratuité de la maternité et des soins des nouveau-nés. Carnage de Goma, début hier à la cour militaire du procès des deux officiers de la garde républicaine, poursuivis notamment pour crime contre l'humanité par meurtre. Nous en parlons avec Gabriel Wamenya Soupe. Tête à tête hier à Kinshasa entre Denis Kadima, président de la CENI, et Didier Reynders, commissaire européen en charge de la justice. La crédibilité des élections prévues en décembre prochain en RDC était au centre de leur entretien. Mesdames et messieurs, bonjour. Le président de la République lance la gratuité de la maternité et des soins des nouveau-nés dans la ville de Kinshasa dans le cadre de la couverture santé universelle. C'était hier mardi à l'hôpital militaire du Kanchachi. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo rappelle que la couverture santé universelle a toujours été un pilier central du programme quinquennal du gouvernement. Il justifie le choix de Kinshasa par les taux élevés de la mortalité maternelle et infantile en affirmant que ce programme va s'étendre progressivement aux autres provinces. Le chef de l'État s'est dit aussi engagé ainsi que le gouvernement à améliorer les conditions de vie et de travail des prestataires de santé pour la réussite de la couverture santé universelle. On écoute Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo dans cet extrait proposé par Alain Runga.
Je suis heureux d'annoncer le lancement du programme de gratuité des accouchements dans la ville de Kinshasa, qui est le premier paquet de soins de notre mise en œuvre de la couverture santé universelle. Cela signifie que les femmes enceintes, les accouchés et nouveau-nés recevront des soins de santé de qualité gratuitement sans que les difficultés financières ne constituent un obstacle, et cela sur financement propre du gouvernement. Le choix de Kinshasa a été fait du fait que nous avons conscience que Kinshasa est une ville densément peuplée dont le taux de mortalité maternelle et infantile particulièrement élevé tire le pays vers le bas. Nous nous engageons à éviter la surcharge des établissements de soins et de santé de la ville-province de Kinshasa en étendant progressivement ce programme aux provinces voisines, notamment le Grand Bandundu et le Congo central, dans les prochains deux mois. Grâce au financement de la Banque mondiale, nous prévoyons aussi d'élargir cette couverture de soins de qualité aux provinces du Kwilu, du Kasaï central et du Sud Kivu, ainsi qu'à 8 autres provinces du pays d'ici la fin de cette année.
Pendant ce temps, les médecins et techniciens vétérinaires de la RDC sont en grève générale depuis lundi sur toute l'étendue du territoire national à cause, disent-ils, du non-respect par le gouvernement des engagements des Bibois 1, 2 et 3. Dans une déclaration à la presse hier ici à Kinshasa, le coordonnateur de la synergie des syndicats de ces professionnels de santé dit par ailleurs craindre pour la santé des Congolais en rapport avec les dangers et risques qui découleraient du manque de contrôle et de surveillance des maladies animales et zoonotiques. Au regard des conséquences de l'absence ou du manque pendant ces temps de grève de l'expertise vétérinaire des denrées alimentaires, Dr Jean-Benoît Mizielemparawa en appelle au bon sens et à la responsabilité du gouvernement. Ces propos sont recueillis par Jean-Désiré Kanyama.
Tous les services vétérinaires spécialisés délivrant les autorisations d'importation et exportation, les services de quarantaine animale et halieutique, les services vétérinaires au poste frontalier, aéroport, port de Matadi, Kasumbalesa, les services provinciaux d'inspection, de taxation et dépôt interne de transit, les cliniques, les abattoirs, les pharmacies, les laboratoires et officines vétérinaires sont fermés et donc interdits de tout fonctionnement jusqu'à la conclusion et exécution intégrale par le gouvernement de la République de toutes nos revendications. Pendant ces temps de grève, les professionnels de santé que nous sommes déclinons toute responsabilité face aux dangers et risques qui découleraient du manque de contrôle et de surveillance des maladies animales et zoonotiques dans l'intérêt de protéger la santé de l'homme. Tout importateur, tout consommateur de la viande et sous-produits de la viande, du lait et sous-produits du lait, sont aussi avertis car l'expertise vétérinaire de ces denrées alimentaires ne sera pas assurée durant cette période de grève.
Même situation dans la province du Maniema où les professionnels et administratifs de la santé poursuivent leur mouvement de grève sèche. Hier mardi à Kindu, ces derniers ont organisé une réunion d'évaluation de ces mouvements deux semaines après. Cyrien Kibondo, coordonnateur de l'intersyndicale au Maniema, fait savoir que les grévistes restent déterminés jusqu'à ce que le gouvernement congolais prenne en compte leurs revendications. On l'écoute au micro de Florence Kizalunga.
Deux semaines après, nous sommes passés à l'étape de l'évaluation de notre mouvement de grève. Nous venons d'évaluer l'impact de cette grève au niveau de la province du Maniema. Nous avons compris que le mot d'ordre a été suivi à 90% par nos syndiqués. Et ça nous a permis également de partager avec nos bases sur les informations du niveau national. Après deux semaines de la grève, les syndicats au niveau de Kinshasa se sont retrouvés avec le ministre national de la Santé qui les a invités et ils se sont échangés. Et à partir de ces échanges, le ministre national de la Santé a promis de résoudre les revendications qui les concernent directement. Et les autres revendications, il va plaider auprès de ses collègues ministres des Finances et du Budget. Et ensuite, il a promis d'aller rencontrer le chef de l'État en personne pour lui parler de ce mouvement de grève. Jusque-là, ce ne sont que des pourparlers. Nous attendons la deuxième rencontre. C'est au vu des retombées de ces rencontres-là qui vont permettre aux bancs syndicales de lever la grève ou pas. Maintenant, la grève se poursuit à son format.
Je l'ai dit au sommaire, tuerie de Goma au Nord Kivu. Début hier mardi sur place à Goma, en présence de la délégation interministérielle du gouvernement, du procès de deux officiers de la garde républicaine à la cour militaire. Ces deux officiers de l'unité spéciale sont poursuivis pour trois chefs d'accusation, dont le crime contre l'humanité par meurtre. Les prévenus comparaissent assistés d'un collectif d'une dizaine d'avocats et de défenseurs judiciaires. Nous faisons le point du déroulement de cette première audience avec Gabriel Wamenya.
C'est sous une pluie battante que les deux principaux prévenus à en croire l'organe d'accusation et quatre autres soldats de deuxième classe ont été présentés à la cour militaire par l'auditeur supérieur. Devant la barre et en présence de la délégation interministérielle conduite par le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur Peter Kazadi, les commandants de la garde républicaine, le colonel Mike Mikombe et les commandants du 182e régiment, le lieutenant-colonel Bawili Mbolitine Donatien, considérés comme les cerveaux de la répression sanglante du 30 août dernier, sont apparus visiblement calmes et flegmatiques devant les juges. Dans son libellé de prévention, l'auditeur supérieur a retenu contre tous les six prévenus trois principaux chefs d'accusation. Il s'agit notamment des infractions des crimes contre l'humanité par meurtre, la destruction méchante et l'incitation des militaires à commettre les actes contraires à la discipline militaire. Dans la salle d'audience, un autre collectif d'avocats s'est constitué partie civile en faveur d'une dizaine de victimes de la dernière répression sanglante présumée qui a fait au total 56 morts et une centaine de blessés selon les derniers bilans fournis par l'auditorat militaire. Goma, Gabriel Wamenya, Radio Okapi.
Ces tueries du 30 août à Goma relèvent autant d'un crime d'État que d'un véritable crime contre l'humanité. Déclaration du secrétaire du parti politique Ensemble pour la République au cours d'une conférence de presse tenue hier au siège de son parti ici à Kinshasa. Dieudonné Bolenge Tenge demande au président de la République de livrer les vrais responsables de ces crimes et leurs commanditaires qui, selon lui, opèrent dans son entourage. Dieudonné Bolenge Tenge explique au micro de Vanessa Kongolo.
Les organisations de la société civile de Goma ont dénombré pas moins de 108 personnes tuées. Aucune d'entre elles ne portait une arme. Affligée par cette grave situation, Ensemble pour la République présente ses condoléances les plus attristées aux familles des victimes et à toute la population de Goma traumatisée par le destin tragique de ses enfants. Ensemble pour la République s'associe à toutes les forces vives de la nation qui exigent que toute la lumière soit faite sur cette tuerie et que justice soit rendue aux victimes. L'État congolais doit assumer toutes ses responsabilités. Le président de la République ne peut se contenter, comme à son habitude, d'exprimer son impuissance et se défausser de quelques menus subalternes. Il doit prendre son courage de deux mains pour sortir les vrais responsables des crimes et leurs commanditaires qui opèrent dans son entourage et les livrer à la justice. Il y va de la dignité, de la fonction et de la crédibilité de l'institution qu'il incarne.
Répondant à la question sur les départs accélérés de la MONUSCO, le secrétaire général du parti Ensemble estime que ce n'est pas le moment car la sécurité des civils n'est pas encore assurée, surtout dans la partie est du pays. Puisque nous en parlons déjà, sachez que la MONUSCO doit accélérer son retrait de la RDC. C'est le souhait du gouvernement de la République démocratique du Congo qui le fait savoir à travers une lettre adressée au président du Conseil de sécurité des Nations Unies en date du 1er septembre en cours et signée par le vice-premier ministre des Affaires étrangères, Christophe Lutundula Apala. Dans cette lettre de 6 pages, le gouvernement congolais réitère l'option d'accélérer et d'avancer à la fin de l'année 2023 le retrait échelonné, responsable et durable de la mission de l'Organisation des Nations Unies pour la stabilisation du Congo annoncée depuis 2018 et dont le plan de transition a été adopté en 2021. Plus de détails avec Esther Ndalafina.
Le gouvernement congolais rappelle les circonstances de l'avènement de la mission onusienne en RDC, les différentes interventions de cette dernière dans les événements qui se sont produits dans le pays. Il évoque le récent rapport numéro S-2023-574 au Conseil de sécurité du 2 août 2023 dans lequel M. Antonio Guterres a dressé un bilan désastreux de la situation sécuritaire et humanitaire en RDC après 25 ans de présence continue de l'ONU dans ce pays à travers la MONUC, puis la MONUSCO. L'évaluation du secrétaire général sur les 12 derniers mois, dont 2022-2023, est sans équivoque. La situation humanitaire s'est considérablement détériorée. Des centaines de milliers de civils ont été déplacés de force, 28% du Nord Kivu, 39% en Ituri. Le nombre d'actes de violence sexuelle commis contre les enfants et les femmes qui a doublé entre 2021 et 2022. Les tensions régionales, la résurgence du 23 au Nord Kivu, où les rebelles ont mis des administrations parallèles et procèdent aux arrestations arbitraires et exécutions sommaires. Le gouvernement estime que la MONUSCO a été impuissante et n'a pas pu assurer la protection de la population civile, une des principales missions statutaires.
Le gouvernement congolais évoque aussi la confiance rompue entre les habitants du Nord Kivu, de l'Ituri, sinon de l'ensemble des Congolais et la MONUSCO, dont la tension est toujours prête à dégénérer à tout moment en choc frontal. Allusion faite aux derniers incidents malheureux du 30 août à Goma qui se sont soldés par des pertes en vies humaines. C'est pourquoi le gouvernement estime que l'accélération du retrait progressif de la MONUSCO à la fin de l'année en cours s'impose. Cette information en plus bref, rencontre hier mardi à Kinshasa entre Bintou Keïta, patronne de la MONUSCO, et Adolphe Muzito, leader de l'opposition Nouvel Élan. Rien n'a filtré de cette rencontre, mais des sources proches des deux personnalités affirment que les échanges ont tourné notamment autour du processus électoral et de la situation sécuritaire de l'Est de la RDC. D'une rencontre à une autre, cette fois-ci c'est la rencontre à Kinshasa toujours hier entre le président de la CENI, Denis Kadima, et Didier Reynders, commissaire européen en charge de la justice. Selon le diplomate belge, la crédibilité des élections était notamment au centre de leurs échanges. Il souligne qu'il ne suffit pas qu'une élection ait lieu, il faut évidemment de la confiance dans le processus, voire dans les résultats. On écoute Didier Reynders dans cet extrait proposé par Alain Rung.
L'engagement est très clair, en tout cas d'avancer vers une présentation de l'ensemble des listes électorales dans les délais qui sont prévus par la loi. Donc je pense que dans la fin du mois d'octobre, si les délais sont maintenus, ce que je crois, on aura cette possibilité pour les citoyens de vérifier leur présence dans de bonnes conditions sur les listes électorales. C'est un contrôle important dans tout système démocratique, que chaque citoyen puisse être sûr qu'il a été pris en compte dans les listes électorales correctement. Et puis, il faudra maintenant que la discussion se poursuive sur la manière, je le répète, dont on va publier les résultats. Alors, on sait que l'ambition, c'est de publier les résultats par bureau, mais le fait-on au fur et à mesure où les résultats arrivent, le fait-on localement, tout ça va devoir être évidemment établi. Mais je crois que le président de la CENI est déterminé à assurer que les élections se déroulent dans les meilleures conditions possibles. En tout cas, c'est notre ambition aussi du côté européen d'accompagner le processus.
Direction la ville de Matadi au Congo central pour parler du lancement lundi dernier par l'ONG Fédération Congolaise des Droits de l'Homme et Développement d'une campagne élargie de sensibilisation sur les arrestations arbitraires et les perceptions des frais illicites dans plusieurs secteurs étatiques. D'après Gabriel Maquès, responsable de cette structure, cette action vise à vulgariser les principes légaux relatifs aux arrestations et perceptions des frais par l'État ainsi que les voies à suivre pour riposter face aux bavures enregistrées. Nana Plurich-Mambou.
Cette campagne sur les arrestations arbitraires au niveau des instances judiciaires et la perception des frais illicites dans tous les secteurs, notamment de la justice, de l'emploi et de l'enseignement, a été menée dans plusieurs quartiers de la ville de Boma. Elle sera élargie à travers la province du Congo central et la ville de Kinshasa pour une durée d'une année, affirment les organisateurs. Dans le but d'atteindre le grand public, la Fédération congolaise des droits de l'homme et développement tient des conférences dans des quartiers au cours desquels sont vulgarisés les principes légaux relatifs aux arrestations et perception des frais dont les préposés de l'État sont auteurs, ainsi que la procédure pour dénoncer ces abus. À cet effet, cette structure citoyenne met aussi à la disposition du public un manuel intitulé « Face à ma situation, que dit la loi et que dois-je faire pour que ces derniers s'en servent de guide ?» Gabriel Makese parle de ses motivations.
Nous avons relevé comme l'un des facteurs l'ignorance que souffre la population.
L'ONG FCDHD prévoit la mise en place des comités locaux qui lui serviront de base pour la collecte des informations sur les arrestations arbitraires et perceptions illicites des frais afin qu'il mène des actions quant à ces. Matadi, Nana Plurish Mambu, Radio Okapi.
Actualité internationale.
Le président de la transition au Gabon, le général Brice Clotaire Oligui Nguema, a reçu hier, 5 septembre 2023, le président de la République centrafricaine, Faustin Archange Touadéra, désigné par la Communauté économique des États de l'Afrique centrale, CEAC, facilitateur du processus politique après les coups d'État contre Ali Bongo Ondimba, selon la télévision d'État. La CEAC a chargé le président de la RCA d'engager des pourparlers avec tous les acteurs gabonais et les partenaires du pays pour un retour rapide à l'ordre constitutionnel.
L'invité.
La deuxième édition du festival Toumaïn s'est clôturée à Beni dimanche 27 août dernier. Pendant deux jours, des artistes et plusieurs autres jeunes venus de Goma, Boutembo, Kassindi, Bounia et Beniville ont échangé leurs expériences et exhibé leurs talents artistiques, le tout sous le thème « Résilience, engagement civique et paix ». Que retenir de la contribution de cette activité culturelle pour la paix dans l'Est du pays et quel bilan dresser de cette deuxième édition du festival à Beni? Benjamin Assimoni, coordonnateur de l'ASBL Toumaïn qui l'a organisé, répond dans cet entretien accordé à Sadiki Aboubakar.
Benjamin Assimoni, bonjour.
Bonjour.
Deux jours de fêtes et d'échanges culturels. En tant qu'organisateur, quel bilan dressez-vous de cette deuxième édition du festival Toumaïn?
D'abord, c'est un bilan positif. Nous avons senti le réalisme de cette édition. Pour nous, le réalisme, c'est d'avoir vu présent dans les sites du festival toutes les astuces en lien avec le thème résilience, engagement civique, paix. Pratiquement, le concept de résilience a été autour des échanges d'expériences entre les jeunes acteurs de paix de Goma, Beni et Bounia et de l'Ituri qui ont été ici présents et ils ont fait un panel devant les festivaliers et aussi devant des milliers de personnes qui suivaient en live direct sur 1043 Stars et sur notre page Facebook. Et du côté de l'engagement civique, nous avons vu beaucoup d'enfants dans notre espace d'enfants et avec des encadreurs qui ont su communiquer de manière adaptée des messages de paix et de cohésion sociale. Et du côté de la paix, c'était le vivre ensemble dans les festivals. Il y a certains qui ont été dans les stands des cafétérias en train de faire le partage des verres ensemble en famille. On a vu aussi dans les sites du festival, il y a eu zéro altercation, aucune bagarre. C'était un moment de fête et l'évaluation de notre côté, nous pensons aussi à la clé, la participation du maire de la ville avec le lancement des activités. C'était en tout cas une participation exceptionnelle de l'autorité dans la première et deuxième journée du festival.
Alors, parlant des stands, nous avons constaté un faible engouement des partenaires, comme par le passé. On n'a pas remarqué la présence de beaucoup de stands d'exposition cette année. Qu'est-ce qui explique cela?
Il y a eu une certaine fièvre, surtout du côté de l'appui aux initiatives des jeunes. Plusieurs, ils ont voulu faire autant d'expositions, mais la productivité n'a pas été au rendez-vous apparemment ces derniers semestres. Et chose qui a affecté plusieurs jeunes ayant des petites entreprises et des petits ateliers de production des arts plastiques qui ont été vraiment en difficulté. Surtout ces genres-là d'arts plastiques n'a pas été représenté. Ouais. Valablement dans cette édition.
Pourtant
dans la première édition, c'était le cas. Et il y a eu vraiment de gros souci de ce côté-là. C'est pourquoi nous continuons à dire que le minimum qui est fait à Beni a besoin d'être soutenu.
Benjamin Assimoni, que peut réellement apporter un festival comme celui-ci que vous venez d'organiser dans la recherche des solutions pour une paix durable dans la région de Beni et l'est de la RDC en général?
Vous savez, après un festival, il y a toujours des impacts en termes de contacts et des relations entre les jeunes entrepreneurs et les fournisseurs ou bien les potentiels bailleurs des fonds. Et c'est là, nous pensons, ça peut arriver un jour qu'un jeune ou deux ou trois ayant présenté des initiatives novatrices puissent avoir la chance de bénéficier un appui quelconque de la part de ceux qui ont été intéressés. Et cela pourrait affecter positivement l'encadrement de la jeunesse, ce qui pourrait donc aussi jouer sensiblement à la diminution du taux de vulnérabilité des jeunes vis-à-vis de cette mauvaise tentative des groupes extrémistes qui veulent toujours se renforcer en effectif à travers, bien sûr, l'état des vulnérabilités et des non-encadrements de la jeunesse dans une région. Donc, nous sensibilisons à travers le festival pour avoir beaucoup de chance d'appui aux initiatives d'entrepreneuriat qui ont de l'impact sur l'encadrement de la jeunesse.
Pour terminer, Benjamin Assimoni, pouvez-vous dire à nos auditeurs et auditrices ce que c'est la paix et pourquoi elle est nécessaire dans la société?
La paix, c'est un facteur de vie qui doit se caractériser par les comportements de quiétude, des bonnes relations avec soi-même et avec les autres. Ce n'est pas une denrée à être apportée par les autorités ou à être apportée par l'armée, mais la paix, c'est vraiment un facteur de vie que chacun individuellement cultive. Le vivre ensemble, si tu cultives le vivre ensemble, les sas du vivre ensemble, tu sauras demander pardon, tu sauras t'interpeller, ne pas commettre du mal au prochain, et cela pourrait construire un environnement favorable pour tout un peuple, et c'est très important parce que sans la paix, on ne peut vraiment pas arriver à exercer d'autres activités quotidiennes de la vie, et tout est gâché.
Benjamin Assimoni, merci.
C'est le Festival Toumaine qui vous remercie.
Notre invité s'entretenait avec Sadiki Aboubakar. Et c'est la fin de ce journal coordonné et supervisé par Alain Rumouchins et mis en onde par Jean-Claude Nsia Lamouana Makengounsoualou. Vous pouvez réécouter ce journal sur www.radiocapi.net. Merci.